podcast@buzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Michael Dian.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du festival de Chaillol. Un festival, donc Chaillol, pour ceux qui ne connaîtraient pas, aux alentours de la région de Gap. En général, le nom de Gap, c'est toujours quelque chose qui dit un peu plus, qui parle un petit peu plus aux gens qui ne sont pas de la région.
Absolument. Nous, on dit entre Alpes et Provence. Quand on est encore voilà, plus loin, entre Alpes et Provence, ça
fait encore plus poétique. C'est une poésie à ça. Un festival qui n'est pas tout nouveau, puisque c'est la 15e édition qui, cette année, se déroulera donc du 17 juillet au 12 août, avec une trentaine de concerts, festival sous-titré musique de chambre, du monde, improvisé, d'aujourd'hui et d'ailleurs. C'est un vaste programme. Alors avant peut-être de détailler un petit peu la cuvée 2011, les temps forts, ce que vous avez voulu un petit peu préparer pour cette édition, racontez-nous un petit peu l'origine de ce festival. Je crois que c'est vous qui êtes le fondateur d'ailleurs.
Absolument, j'ai proposé avec quelques amis du conservatoire en sortant du CNSM il y a une quinzaine d'années maintenant.
Vous jouiez de quel instrument ?
Moi je suis pianiste, je le suis moins maintenant, je joue du Macintosh. Mais, mais disons qu'il y a 15 ans qu'on était très désireux de jouer, on avait peu de contacts encore, on était avec un enthousiasme débordant. Et moi j'avais des attaches familiales et affectives dans cette région. Il se trouve qu'il y avait quelques pianos déjà là-bas, puisque mes parents, qui sont des universitaires et se préoccupaient pas mal de pédagogie, avaient initié un stage de musique pour des enfants, des vacances musicales. Et donc mon père m'a fait la réflexion, m'a dit « Toi qui as envie de jouer avec tes amis, viens à Chaillol, il y a déjà des pianos, c'est toujours ça, on trouvera bien le moyen de vous héberger. » Donc ça a commencé comme une aventure très... c'était pas un festival, on a nommé le premier festival au deuxième, on s'est dit finalement c'était un festival. Et ça a commencé dans une exubérance très joyeuse, dans une forme de générosité, quelque chose de très... de l'ordre du don, vraiment. On a fait une quinzaine de concerts.
Il y avait une politique un peu de programmation au début où c'était un petit peu...
C'était très musique de chambre, en fait. D'accord. On était vraiment sortir du conservatoire avec une envie de jouer des grands chefs-d'œuvre. Voilà, on a fait Brahms, on a fait Beethoven, on a fait beaucoup de choses comme ça. Et puis on s'est rendu compte que ça répondait vraiment à un besoin, au-delà du nôtre. Nous, on a répondu au nôtre, qui était de jouer. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait une attention extrême portée par les publics, alors très, très divers, à la fois des gens qui venaient en vacances, puis des publics plus locaux, que cette offre culturelle-là, elle faisait apparaître un vide, un creux, un manque, et qu'on s'est dit, pourquoi pas continuer. On a reçu beaucoup d'enthousiasme de la part du pays lui-même, enfin du territoire, des gens qui ont mis le coup de main, enfin comme souvent dans ces aventures qui commencent.
Est-ce que le coup de main était aussi financier? Parce que malheureusement, quand on se lance dans ce genre d'entreprise, les salles ont beau être pleines, parce que comme vous le dites, peut-être qu'il n'y avait pas énormément de choses, ça intéresse le public, mais derrière, il faut effectivement monter un festival.
On a eu beaucoup de chance, parce qu'on a eu des élus qui ont très vite compris que, on apportait quelque chose de différent, de nouveau, que eux-mêmes n'étaient pas, ne maîtrisaient pas ce sujet-là, la musique, la culture, ben voilà, c'est un territoire rural de montagne, des petits villages de 60 à 300 habitants disséminés sur l'ensemble des Hautes-Alpes. Ça fait beaucoup de monde, mais très éparpillé en fait. Et ils nous ont donné des coups de main au départ de manière très matérielle. On a restauré une église qui était désaffectée, qui est devenue un lieu de concert absolument magnifique. On a petit à petit structuré, nous, l'association, de plus en plus professionnellement parlant. Et aujourd'hui, c'est une structure de production qui est soutenue financièrement depuis la collectivité la plus locale jusqu'à l'Europe, avec des financements de la région, de l'État, de la préfecture. Enfin, voilà. On est dans le montage classique d'une structure de diffusion, de production et d'accompagnement de la découverte aussi, parce qu'on fait beaucoup de médiation tout au long de l'année. C'est un vrai enjeu de territoire, un vrai enjeu de développement culturel local.
À partir de quelle édition on peut dire le festival est vraiment devenu un petit peu solide et a passé
un vrai cap effectivement autour de la 7e-8e, et c'est intéressant parce que c'était l'année 2003 où on a tous pris en pleine face la crise des intermittents. Comme beaucoup de festivals, on s'est interrogé, on était quasiment tous des intermittents, et on faisait ce festival quasiment bénévolement parce que nous étions intermittents. Et il y a eu un moment de déclic, comme ça, de maturation, j'allais dire, d'ordre politique, où on s'est dit, ce qu'on fait est important pour le territoire, et il faut que le territoire le veuille aussi. Et donc, il faut qu'on aille convaincre des élus de financer l'existence de ce festival-là, et pas simplement de se le voir offrir avec beaucoup de générosité. On a essayé de conserver la générosité, je pense qu'on y est arrivé, mais aujourd'hui, on est vraiment une structure de production professionnelle.
Et j'imagine que le but, c'est pas juste à chaque fois la survie, mais d'essayer de se prolonger, de pouvoir dire, on va développer un festival, et pas juste, ah, on a gagné une année de plus.
Non,
essayer d'établir vraiment.
Même si, comme toutes ces structures-là, on n'a pas une visibilité à 5 ans, et donc on est toujours heureux de rajouter une année, mais effectivement, il y a une vraie vision à long terme. Ça fait 15 ans qu'on est dans ce territoire, on connaît très bien les élus nous connaissent, nous font confiance, on peut leur dire des choses, on peut accompagner une prise de conscience progressive que la culture c'est un enjeu aussi humain, fort, essentiel, et qu'il n'y a pas que le sport ou le ski, puisque c'est essentiellement des régions du ski, c'est important, mais voilà. Donc on peut construire des choses de manière extrêmement serrée avec des élus qui commencent à comprendre de quoi on parle et qui sont vraiment des partenaires pour nous. Voilà, on co-construit, on co-écrit quelque chose avec eux. Alors évidemment, moi je reste complètement maître d'une programmation, enfin on est dans un schéma classique de délégation quasiment de services publics. Mais on est dans une forme de mutualisation de 1000 petits moyens de communes qui n'ont pas énormément de budget culture, souvent n'en ont pas du tout d'ailleurs, souvent des budgets d'animation, et en mutualisant ces moyens-là et en confiant la responsabilité à notre structure, donc les productions du bocage, puisqu'elles s'appellent comme ça, on permet d'offrir une programmation des très hautes tenues avec des artistes qui viennent plutôt des scènes européennes, enfin qui ont vraiment un très, très beau niveau, à la fois artistiquement et dans le développement de leur carrière. Voilà.
Cette aventure, c'est un peu quoi? Une sorte de représentant de ce qu'est la décentralisation culturelle, avec ses côtés, oui, on le fait, mais parfois difficile, parce que remettre à chaque fois, batailler pour... est-ce qu'effectivement le festival existe? Comment vous avez vu l'évolution, justement?
C'est tout à fait ça. Moi, je me situe personnellement, enfin comme musicien, comme artiste ou comme directeur de festival, dans une histoire qui est celle de la décentralisation. D'ailleurs, la région PACA a fait une grande expo pour fêter les 30 ans de la décentralisation et a choisi le Festival Scholl pour être un peu emblématique d'un geste culturel fort dans des territoires très éloignés. Quand on est à Marseille, les Hautes-Alpes, c'est loin. Donc on est clairement dans cet héritage-là qu'on essaie de réinventer, parce que la décentralisation, ça a apporté un rééquilibrage de l'offre culturelle sur l'ensemble du pays. On a un tissu associatif en France qui est enviable, enfin des scènes nationales dans chaque région, enfin voilà. Mais maintenant il faut réinventer ça, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a toute une série de critiques qui sont portées à la décentralisation, et notamment à sa conséquence, l'idée d'une certaine forme de démocratisation culturelle. Nous, on essaie de dire, il faut que maintenant les artistes, peut-être dans des lieux comme celui-là, le festival, prennent le risque de s'installer durablement dans un territoire. C'est-à-dire, nous, on invite des artistes sur 2-3 années, on suit un travail, on les fait venir entre janvier et juin une ou deux fois, puis reviennent ensuite l'été sur... dans une saison, ils viennent 5 ou 6 fois, il y a 5 ou 6 concerts autour de chaque artiste. Et on peut comme ça tisser des liens très très forts avec les populations, avec des lieux comme des écoles, des centres sociaux, etc. Donc il y a un vrai investissement dans le champ social pour traiter la question du public et pas se dire, on a une offre culturelle qui est de qualité, viennent qui savent, en fait. Non, on va essayer d'être très actif sur la recherche de public un peu, qu'on dit pudiquement, éloigné de l'offre culturelle.
Vous avez dit, on s'est pris la crise des intermittents un peu en pleine face. Aujourd'hui, avant peut-être de détailler cette 15e édition, jusqu'au 16 juillet, la veille de son début, où en est un peu le festival par rapport justement à cette évolution, à la situation actuelle, comment par exemple par rapport à la crise du disque, certains voient effectivement le spectacle vivant, enfin la musique vivante, comme un peu un relais, mais avec toutes les difficultés qu'on sait,
Moi, j'ai l'impression, alors j'ai pas la réponse à tout, c'est des débats complexes, mais j'ai l'impression qu'il y a une très très forte demande d'une vraie proximité entre les artistes et le public, qu'il faut créer les conditions de cette proximité, et que peut-être des lieux comme les nôtres, nous on joue dans beaucoup de petites églises, de petits hameaux, donc on joue avec les lieux, on a des formes exclusivement acoustiques, on a fait ce choix-là pour considérer les églises comme un vrai instrument de diffusion, et pas simplement comme un lieu d'accueil. Donc on essaie de tricoter cette relation assez intime avec le territoire et les gens qui y vivent ou qui le traversent. Et ça génère, moi je le constate à chaque fois, un vrai enthousiasme, parce qu'au-delà du concert qui est reçu de manière, c'est des petites salles de 80 à 200 places, le concert est reçu avec une intensité, avec une ferveur qui moi me surprend toujours. J'écoute à la fois évidemment le concert puisque je suis programmateur, mais j'écoute aussi le silence que les gens produisent en écoutant le concert, c'est-à-dire la manière dont les gens reçoivent ça. Et je suis parisien, j'habite Paris, enfin Montreuil plus exactement, mais donc je vais beaucoup aux concerts à Paris. Et parfois, et les musiciens me le disent aussi, on s'étonne ensemble de l'intensité de cette écoute-là. Et je crois que, sans opposer ces lieux de diffusion que sont les grandes salles de concert et les petits lieux, mais il y a une complémentarité qui est extrêmement intéressante dans le sens où ça permet d'accéder pour des gens qui n'ont pas l'habitude ou qui n'oseraient pas rentrer dans des salles un peu prestigieuses, parce qu'on est chez eux en fait, quand on est dans une commune, on est reçu nous. C'est pas les gens qui viennent au concert, c'est nous qui sommes reçus dans ces communes-là. On a le sentiment d'être dans un geste qui devient familier, qui devient quotidien, qui devient simple. Et au sortir des concerts, il est pas rare que les gens vraiment achètent le disque des musiciens, d'abord parce que nos places sont très peu chères, et parce que c'est de l'ordre de l'évidence. Les musiciens sont là, on en parle après avec eux, du concert, le lendemain on organise des rencontres, ou après, c'est pas simplement de la diffusion musicale, c'est tout un dispositif qui permet de rapprocher le travail des artistes, qui est important, qu'il faut défendre, qui restera, disons, dans une économie fragile et un peu structurellement déficitaire. Enfin voilà, on est dans l'économie du prototype en permanence quand on est artiste. Et donc ça doit se soutenir avec l'effort de la puissance publique, d'un côté, et de l'autre, ben voilà, une relation avec des publics qui doit être réinventée, renouvelée, revivifiée, peut-être en organisant autour des moments de rencontre, d'échanges, de pratiques aussi. Nous, il est pas rare qu'on propose à des artistes qu'on invite de venir faire un atelier de découverte, de venir faire un atelier de lutherie, une initiation aux percussions orientales, enfin, pour que le concert soit suivi de tout un ensemble de moments d'échanges, de rencontres. C'est très stimulant pour tout le monde, et je crois aussi pour les artistes.
À quel moment dans l'histoire du festival vous avez décidé de l'ouvrir à d'autres types de musique, puisque au début c'était essentiellement chambriste. On verra tout à l'heure quand vous nous parlerai un petit peu de l'édition 2011, qu'effectivement on peut passer non seulement des styles, mais même des régions du monde entier, etc. Donc à quel moment vous avez fait changer le
festival ? Ça s'est fait très progressivement, parce que j'ai eu, bon, moi j'ai une curiosité, enfin je me suis toujours senti, non pas à l'étroit, parce que nos répertoires classiques sont extrêmement, enfin voilà, c'est, les répertoires savants européens ou de la musique occidentale sont d'une richesse, d'une portée incroyable, et je pense toujours aujourd'hui. Mais je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi peut-être les entendre avec beaucoup plus de force, ou en tout cas avec une force, peut-être avec une portée plus forte encore, notamment pour des publics qui sont toujours un peu, il y a peut-être presque parfois un ressentiment par rapport à ces musiques-là. On n'a pas été initié, donc on ne sait pas pour nous, et puis on ne saura pas quoi entendre, etc. Je me suis rendu compte qu'on pouvait trouver des passerelles aussi, en articulant ces œuvres-là. Je pense par exemple à un quatuor de Beethoven, c'est très intéressant par exemple de le mettre en regard avec un quatuor d'une compositrice comme Frangiz Alizadeh, une compositrice d'Azerbaïdjan qui écrit aussi pour quatuor à cordes. Donc on est à chaque fois dans des formes classiques, musique de chambre, au sens petite formation de 3 à 7, 8 musiciens, acoustique, donc on est à chaque fois dans de la musique de chambre, mais en ouvrant vers des disciplines ou vers des expressions musicales qui viennent d'au-delà de l'Europe. Et ça, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on vit un monde globalisé, c'est une banalité de le dire, voilà, a priori. Et du coup, on a peut-être un intérêt à questionner, à trouver des articulations, des correspondances, et ça dit beaucoup. Il y a un autre sujet, moi, que je traite, une problématique que je travaille vraiment beaucoup avec le festival, c'est de montrer que dans les répertoires savants européens, il n'y a pas que de l'écrit, ce n'est pas qu'une tradition écrite. Quand vous écrivez, vous travaillez un quatuor à cordes, évidemment, il y a de l'oralité là-dedans, il y a des choses qui se transmettent de maître à maître. Il y a aussi tout un patrimoine folklorique populaire qui est ingéré, qui est intégré, qui est digéré là-dedans par Beethoven. Montrer que la musique écrite n'est pas qu'écrite, qu'elle est aussi faite de traditions orales, et de montrer aussi parallèlement que les traditions orales sont pleines d'une mémoire extrêmement forte, et qu'elles ne sont pas juste créées dans l'instant, elles ne s'inventent pas au moment où on la découvre, elles sont aussi pleines d'un... Voilà, c'est aussi un patrimoine. Donc montrer un peu que ces catégories, musique improvisée, musique écrite, musique savante, musique populaire, sont pas si agissantes que ça quand on regarde la création musicale pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une manière de dire notre place dans le monde.
Voilà. Alors, pour être concret, l'édition 2011, alors j'imagine que vous auriez envie sans doute de défendre chacun de la trentaine de concerts. Le programme sera consultable évidemment sur Cobuzz dans les moindres détails ou sur le site du festival, donc on peut voir comme ça en survolant qu'on peut passer du jazz au piano romantique et même de l'Argentine à la Palestine, enfin c'est assez éclectique. Quels sont comme ça quand même malgré tout les quelques temps forts qui sont vraiment pour vous un peu les majeurs de cette édition?
Alors comme vous le disiez, c'est très difficile parce que on aime tout dans une programmation, c'est comme une carte quand on est chef dans un restaurant, ouais. On a envie de pouvoir découvrir tous ces
des
produits.
Des milliardises jusqu'au plat de résistance.
Exactement, tout est précieux,
tout est essentiel.
On a soigné tout, ouais. Il y a cette passion et cette connivence très forte, ouais, avec les artistes. Mais enfin, s'il fallait pointer deux choses un peu emblématiques, deux ou trois choses. Il y a tout ce travail d'Alfonso Pacin, qui est un arrangeur, musicien, polyinstrumentiste, compositeur argentin qui vit à Paris, qui fait un travail absolument remarquable, pour moi très, très important dans ce qu'il il essaye de, et je pense qu'il réussit à une synthèse dans l'écriture entre le patrimoine qui est le sien, qui est donc les cultures latino-américaines populaires, et pas que le tango, c'est-à-dire la source africaine aussi, les musiques indiennes, indigènes, j'allais dire, et une écriture extrêmement savante pour quintette à cordes. Lui est un compositeur qui peut vous parler de Bartok, qui peut vous parler de... Voilà. Donc comment écrire de la musique d'aujourd'hui dans une tradition qui est évidemment une tradition de musique populaire latino-américaine, et c'est très nettement audible, mais en même temps dans une sophistication dans l'écriture qui relève des pratiques de la musique contemporaine occidentale savante. Et ça, c'est très intéressant parce que pour moi, ce sont de nouveaux alliages, et c'est pour moi de la musique traditionnelle d'aujourd'hui. Et on montre bien là que la musique traditionnelle n'est pas toujours d'hier, elle se réinvente tous les jours. C'est un des sujets du festival. Donc Alfonso Pacin, ça s'appelle La dérive du quintet, c'est une très très belle chose, vraiment.
D'autres
alors, on accueille toujours dans cette idée qu'on questionne un peu le jazz. Et qu'est-ce que le jazz ? Est-ce que de la musique improvisée ou pas ? On a écrit un très beau texte avec François Maimoun sur le jazz écrit. Et on a invité Manuel Rochman, voilà, qui est un grand monsieur du jazz. Donc moi, j'ai une admiration infinie pour son piano, son érudition aussi. Et c'est pareil, quelqu'un qui peut vous parler aussi bien, et dans sa musique aussi, faire entendre l'héritage de Ravel, de Scriabine, de Rachmaninoff. Et on entend tout ça vraiment, c'est très net dans les l'écriture pianistique. Et en même temps, on est vraiment sur de la musique qui relève de la catégorie du jazz. Donc, les choses ne sont pas si tranchées que ça, et c'est ça qui est très très bien. Donc il fait un très bel hommage qu'il a déjà donné à Paris avec beaucoup de succès autour de Bill Evans, ouais, absolument, qui est un très très beau disque que vous avez entendu évidemment. Et on est très heureux de l'accueillir à la fois sur une date en solo. C'est la première fois au festival qu'on a vraiment une date comme ça de piano solo. Moi, ça faisait longtemps que je cherchais ça, et avec Manuel, je sais qu'on aura quelque chose de très beau, très réussi. Et en même temps, en trio avec Mathias Alaman à la contrebasse et Mathieu Sazarenc, qui sont ses partenaires habituels à la batterie pour Mathieu. Voilà. On a un autre projet auquel on tient parce qu'il est aussi dans cette articulation entre le territoire et ce qu'on essaye d'y poser, et une proposition culturelle un peu écrite, costaud. C'est l'intégrale des sonates de Beethoven pour violon et piano, avec un très beau duo qui est constitué par Laurent Vachal au piano, bien connu des mélomanes français, et puis aussi Julien Dieudegard, qui est, je le dis en passant, le violoniste du Quatuor Bella, une magnifique formation. Donc ils font tous les deux en quatre concerts l'intégrale des sonates pour violon et piano de Beethoven. Et nous, on joue du territoire, c'est-à-dire qu'on fait, on propose cette intégrale, on en parle comme une intégrale à suivre. Et on la propose dans quatre lieux du pays Gapençé, sur quatre soirs, dans quatre lieux différents, avec à chaque fois cette découverte d'une acoustique, d'un lieu patrimonial assez fort du territoire. Et voilà, il y a des gens qui n'écoutent qu'un concert, il y a des gens qui suivent vraiment l'intégrale. Et c'est une manière pour nous d'écrire une programmation qui tient compte aussi de l'endroit où elle se dépose. Voilà, le territoire n'est pas juste un décor, il est un élément de la programmation de manière très, très évidente quand on entend quatre concerts dans quatre acoustiques, quatre lieux, quatre résonances différentes. Voilà. Je pourrais faire aussi un petit zoom sur Sabil, qui est un très très beau projet, donc qui va être l'objet d'un disque qui sortira très prochainement. Donc vous parlerez peut-être à Kobuz. Ahmad Al-Khatib est un musicien palestinien qui vit à Göteborg en Suède, qui est un enseignant, un passeur, un grand érudit des musiques orientales. Et il est accompagné, enfin il forme un duo avec Youssef Habeish, qui est un percussionniste aussi palestinien, israélien, et qui vit à Paris. Et ce sont tous les deux, ils ont donné trois concerts déjà dans notre saison du mois de juin. Là. Leur duo est vraiment une traversée de la mémoire orientale, et moi m'a fait découvrir à quel point on a parfois le sentiment que cette musique est un peu monolithique. Enfin voilà, quand on dit musique orientale, on a pas mal de clichés qui débarquent, et on se rend compte qu'en fait il y a peut-être autant de variétés entre la musique irakienne et la musique tunisienne que ce qu'il y aurait entre la musique d'Irlande du Nord et puis la musique des Espagnols de la pointe sud. Voilà. Donc c'est intéressant de renverser un peu les visions, et en tout cas ils sont des êtres, des belles personnes et des gens d'une générosité, d'une humanité absolument, voilà, qui nous ont bouleversés. Leur disque s'appelle Sabil, il est produit par l'Institut du Monde Arabe et il va sortir prochainement. Le festival de Chaillot en assure quasiment le vernissage. Enfin, voilà, on est très très fiers de ce projet-là.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que parallèlement à tous ces concerts, il y a aussi des ateliers de chant, initiation, percussion, éveil musical, etc. Donc il y a toute une batterie d'éléments un peu plus, on va dire, pédagogiques ou de présentation. Ça, c'était dès le début aussi dans le festival, ça s'est fait progressivement ?
Non, c'était immédiatement. C'est dans la matrice du festival, il y a cette idée de la transmission. On cherche à réfléchir en acte, hein. On ne fait pas une thèse là-dessus, on n'est pas des... Voilà, on n'est pas des penseurs, on pense en acte en tout cas. On a essayé de réfléchir aux conditions dans lesquelles la musique, puisque c'est notre sujet, mais on pourrait le faire sur le texte, le livre, etc., pouvait trouver une place plus forte dans la vie des gens. Et il se trouve que la fenêtre estivale est propice à ça, parce que les gens sont plus détendus, c'est des vacances, et qu'il faut en profiter peut-être aussi pour leur proposer des choses qu'ils ne trouveraient pas voilà, dans la vie quotidienne. Voilà. Donc on s'est intéressé à comment, avec les artistes, autour d'eux, à côté d'eux, on pouvait... Voilà, inviter les gens à mettre les mains dans la musique, alors des percussions corporelles ou un atelier de chant choral. Mais à chaque fois, il y a des restitutions, c'est vraiment très sérieusement fait. On travaille avec des amateurs, moi je l'ai beaucoup fait comme chef de chœur que j'ai été longtemps. On peut travailler avec des amateurs avec la même exigence qu'avec des professionnels, simplement on sait d'où on part et on sait où on peut arriver. Mais ça peut être fait avec beaucoup d'exigence et ça a une vraie portée parce que les gens, je pense, quand ils ont travaillé par exemple la question de la justesse ou de la mise en place ou de la place des voyelles et des consonnes dans un texte vocal par exemple, ils écoutent du quatuor à cordes en disant « Ah oui, mais en fait c'est un travail incroyable. » Voilà, on prend conscience de la valeur extrême et on peut avoir une vraie fascination pour le coup du travail des artistes parce qu'on a peut-être touché comment les choses se fabriquent au quotidien pour quand on est musicien professionnel.
Alors j'imagine que là vous avez un peu la tête dans le guidon et vous attendez le coup d'envoi donc le 17 juillet. Est-ce que vous avez déjà quelques idées, des envies pour l'édition prochaine? Vous avez déjà posé quelques balises? Vous avez des... Ou non, pas trop pour l'instant.
Absolument, non, non, si, si, on travaille d'abord ces programmations puisqu'elles commencent en janvier pour ce qui est de notre saison annuelle. On est déjà très avancé sur la programmation. Il y a des choses qui sont en discussion avec beaucoup d'artistes, notamment le Quatuor Bella, avec Ahmad Al-Khatib et Youssef Arbeish. Il y a un projet d'écriture aussi plus large dont le festival pourrait être un des commanditaires. Il y a tout un travail autour de François Rosset dont on n'a pas parlé là, mais qui est un grand monsieur de l'improvisation et un compositeur qui invente à chaque fois des alliages assez étonnants cette année, notamment avec Michel Etchekopar, qui est un berger instituteur basque, qui est un grand personnage de la culture basque. Enfin voilà, on tire la pelote. Moi, je travaille beaucoup dans une... J'ai besoin de cette connivence, de ce désir des artistes de venir poser de nouveau un acte, de réfléchir après une première prestation, une première invitation à comment ils pourraient mieux ou autrement ou plus loin s'impliquer dans le territoire à mes côtés. C'est vraiment, le festival est quelque chose qui s'écrit avec beaucoup de gens. Je suis simplement une espèce d'animateur comme ça, avec évidemment des directions, des choix qui sont faits, mais une politique, une vision, mais c'est quelque chose qui se fait de manière très très collective avec des artistes qui se reconnaissent aussi dans ce projet-là.
Votre structure de production permet justement d'établir un peu, d'arriver... Un peu au climax avec le festival chaque fois, c'est vraiment une sorte de lien sur toute l'année.
Absolument. Il y a vraiment un principe qui est, on fait une quinzaine de concerts de janvier jusqu'à juin, dans des communes parfois très très reculées. Quand on est en janvier et qu'il y a 30 cm de neige, qu'il faut passer un col et qu'on arrive avec
deux musiciens,
on se dit des fois, est-ce qu'on va pas un peu trop loin? On a inventé une formule entre nous, parce que j'ai une équipe formidable qui suit ça. On se dit, on fait de l'action culturelle en territoire parfois hostile. Mais on est toujours récompensé parce qu'il y a beaucoup de monde, des gens sont très reconnaissants de que cette musique puisse arriver là. Donc oui, on a un principe très simple, c'est que les artistes qui font les concerts de janvier à juin toute l'année sont les artistes qu'on va retrouver dans des formes plus déployées, plus conséquentes, plus larges pendant le festival. On n'a pas deux programmations, on a une saison avec des moments différents, une intimité plus grande dans l'année parce qu'il n'y a pas beaucoup moins de touristes, et un métissage des publics ou un mélange des publics plus fort pendant la période estivale où évidemment il y a beaucoup de gens qui viennent de Marseille, de Grenoble, de Lyon, de plus loin aussi. Voilà.
Donc, tous ces gens pourront donc se retrouver à Chaillol et dans sa région donc, du 17 juillet au 12 août pour la 15e édition donc, du festival de Chaillol. Merci beaucoup Michael Lian.
Merci à vous, merci beaucoup.
cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.